chants de Maldoror ont occupé un moment de votre existence et une partie de votre énergie, puisque vous leur avez consacré un travail, une étude, et je crois qu'en dehors de cette étude, c'est un texte aussi qui est toujours là.
J'en ai fait 3 éditions pour être sûr d'en avoir toujours une avec moi. Mais le rapport avec Lautréamont, Ducasse qui nous arrive sous les traits de Lautréamont avec tout ce qu'on a fait pour faire parler ce mot, Lautréamont, etc. Et le fait qu'on ne sache de toute façon pas s'il a choisi Lautréamont ou Latréamont, puisque nous avons une preuve de chacune de ces graphies, donc le héros de Gensu. Ça me plaît assez, ça, parce que il y a toujours un mot que je n'ai pu entendre sans que ne paraisse littéralement à mes yeux Maldoror. Et c'est Gaucho Madrero. C'est des mots que j'ai beaucoup fréquenté des Américains du Sud qui sont très très marqués par Ducasse. Non seulement parce qu'il a vécu chez eux, parce qu'il est né chez eux, mais disons parce qu'il est né dans des conditions qui sont restées assez les leurs, n'est-ce pas ? Notamment le positivisme, le glorieux exemple en Amérique latine, en Amérique centrale. Eh bien, ça leur reste. Il est lié aussi au siège de Montevideo. Mais parmi ces Sud-Américains, il y avait surtout Julio Cortázar. Et bon, si on est familier. Alors, Gaucho Madrero. C'est un gaucho qui est en rupture de banc. Donc, c'est un gaucho contrebandier aussi. C'est un gaucho pour lequel les frontières, en tout cas les frontières des ranchs, n'existent plus. C'est un révolté. Mais c'est un révolté dont l'idéologie ne peut pas s'exprimer dans des termes réductibles, au conceptuel, réductible à la raison. Exactement comme la révolte de Maldoror est à mes yeux irréductible également au concept, à la conception logique et à la conception rationnelle. Il y a là quelque chose qui s'exprime, qui envahit, engloutit l'idéologie, qui est plus forte que l'idéologie. Et moi, ça m'étonne toujours, mais il est vrai que nous sommes aujourd'hui dans une crise totale des discours critiques. D'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez appliquer au champ de Maldoror, par exemple, la critique marxiste, elle ne s'applique même plus nulle part, la pauvre. Appliquer ce qu'on a beaucoup tenté, et hélas, les différentes méthodes critiques structuralistes, textualisme notamment, etc. C'est l'échec.
C'est un texte qui est fortement résistant.
Mais il est Madrero. Il est comme ça. On croit l'avoir ici. Il fuit entre les doigts. Il se reconstitue comme un fantôme ailleurs. C'est très frappant aussi. Je crois que l'image était déjà chez Desnos. Mais c'est moi, elle m'a beaucoup frappé. Parce que j'ai aussi connu Marcel Alain, des deux auteurs de Fantomas. Et il habitait une maison absolument étonnante au bord de la Marne. Et il y avait des grandes vitres comme ça. Et alors il avait gardé les grandes publicités pour Fantomas, quand Fantomas couvrait les murs de Paris, voir le poème de Desnos. Et bien c'était ça aussi, Maldoror. C'est-à-dire on avait l'impression que si on voulait le saisir, on passerait à travers. Et il n'y a pas de problème, Maldoror. Et d'ailleurs, regardez comment les choses se passent. Ducasse, mais nous savons tout de Ducasse. Si vous avez lu les livres de Caradec, de mon ami François Caradec, vous apercevez que, bon, on sait quand il est né, on sait le suicide de sa mère, on sait comment il est retourné en Amérique, on a même une photographie récemment découverte de lui. On sait tout.
Est-ce que c'est très important de savoir tout ça ?
Écoutez, on est toujours... Moi, je ne suis pas contre ce qu'on appelle le Sainte-Beuvisme. Je suis contre le Sainte-Beuvisme lorsque on chasse le texte hors de l'auteur. Mais je suis aussi contre, par exemple, la réduction textualiste qui fait que j'ai des livres sur l'Autriamont, ou Ducasse, dans lesquels la date de naissance n'est pas citée, le pays d'origine n'est pas cité. Alors là, vous comprenez, mon gaucho madrero, il passe complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas possible. Oui, il faut savoir qui ont été les gens. C'est quand même, parfois, ce qui manque, ce qui permet quand même, non pas d'éclairer le texte, encore une fois, qui échappe aux idéologies, comme la plupart des textes très, très, très beaux, mais d'éclairer ce rapport très curieux entre le vécu et l'écrit. Or, si vous avez lu donc François Kerelec, vous savez tout ça. Et pourtant, vous savez rien. Il y a une sorte d'inexistence de Ducasse qui serait un peu, si vous voulez, le fait de sa tempe. Où est sa tempe aujourd'hui? Ben, elle doit être quelque part à côté d'un... Probablement, où elle a fait place à des colonnes montantes de chauffage central dans un HLM. Alors, ça, c'est très important, c'est très vrai, c'est très... c'est la même chose. Alors on demande où est Ducasse aujourd'hui? On va aller sur sa tombe. Bien oui, il fait partie de ces veines techniques, industrielles de notre époque. Il est là, il est dans le calorifère. Et de la même façon, où est Ducasse, où est l'autre? Mais il est dans nos veines. Cet autre système de distribution d'énergie. Il est là-dedans, il navigue là-dedans, il a disparu entièrement. Il aurait pu... et même avec un certain dédain, n'est-ce pas? Parce que, enfin, l'Autriamont, on peut dire, bon, c'est le dernier des romantiques, soit, c'est le premier des poètes communards, oui, à l'exception près, c'est que son romantisme n'en est pas, et d'autre part, qu'il est effectivement, avec poésie, le plus grand poète de la Commune. Mais qu'au moment de la Commune, il est mort, parce qu'il meurt pendant le siège. Alors il y a une sorte, de la part de ce personnage fantomatique, de jeu avec le temps. Il n'est jamais où on l'attend. Il est toujours ailleurs, comme le gaucho madrero qui galope dans la nuit. Et qui, le matin, va disparaître, se fondre dans les plantes sèches de la pampa, et ne renaître qu'à la nuit, pour que sa galopade l'emmène encore plus loin vers son point de fuite exact, où vraiment il va se dissoudre et on ne le retrouvera plus. Il deviendra aussi le gaucho fantôme d'un calorifère ou d'une boucherie géante, et il sera aussi dans les veines de Giulio Cortázar, comme il est dans les miennes. Ducasse est quelqu'un qui hante, qui a hanté, c'est le démon de la jeunesse aussi. C'est ça qui est extraordinaire, parce que les chants de Maldoror sont écrits avec la sublimité de l'infantile. De l'infantile dans le sens le plus éclatant, le plus éblouissant de l'enfance. Et c'est un texte qui, malgré toutes ces références, enfin le cheveu de Dieu au bordel, etc., c'est un texte impubère. C'est surprenant, mais c'est une notion que j'en ai gardée. C'est-à-dire, c'est un texte qui fait tellement paraître, à un moment donné, ces notions sexuelles, qu'elles finissent par, elles aussi, par tout d'un coup, devenir comme évanescentes.
Est-ce que, en fin de compte, un auteur au sens fort, enfin, au sens d'un poète dans ce sens-là, de quelqu'un qui a vraiment une parole fondamentale, oui, comme Ducasse quand il devient l'Autréamont, est-ce que un auteur comme ça ne serait pas aussi lui-même un nuage avant, enfin quelqu'un qui est tellement nuageux qu'il cherche à prendre forme dans une écriture, oui, et qu'il n'y prend jamais forme, donc
oui. C'est passé ce phénomène, comme si vous étiez le livre est passé à travers vous à travers du livre que vous avez écrit. Puis tout d'un coup, vous naviguez assez fort loin, de plus en plus loin, l'un de l'autre. Et là, c'est aussi, ce serait l'image maldororienne du texte, enfin de l'écrit. Et c'est évident que Quand Supériel écrit son long poème sur l'Outre-Hermont,
autre Américain du Sud,
donc dans Gravitation, eh bien, il parle d'un Supériel. Je suis sûr qu'après, il ne savait plus duquel. Peut-être n'est-on pas gaucho madrero par vocation. Peut-être ne l'est-on pas par choix. Ben, peut-être l'est-on comme le nuage et le nuage. Peut-être que Ducasse ne pouvait être que ça. Ou se suicider. L'Outre-Hermont, Fameux d'or, implique aussi la nuit. Mais alors là, quelle nuit? Pas la nuit physique, mais la nuit qu'évoquait Paul Éluard dans ses livres mystiques de Capitale de la douleur et de Mourir de ne pas mourir. C'est la nuit, c'est pratiquement la nuit du Carmel. Vous savez, il ne faut pas penser que, pas situer les mystiques dans le côté du plateau du bien pour venir à Ducasse, puis les poètes dans le plateau du mal pour rester chez Ducasse. Non, ça se mélange. Il y a des mystiques, notamment celle du Carmel, qui sont peut-être beaucoup plus assassines, qui agissent beaucoup plus sournoisement, beaucoup plus étonnamment que d'autres. Et c'est cette nuit, c'est ce qu'on appelait la nuit mystique du Carmel, c'est ce dont parle Jean de la Croix. C'est peut-être cette nuit-là dont on a besoin pour appréhender mieux Maldoror. Et c'est peut-être cette nuit que la lecture intensive, disons, la lecture à la façon d'une drogue, parce qu'on peut faire ça aussi. Moi, je m'y suis livré. C'est-à-dire de lire L'Outre-Hermont sans m'interrompre. Je veux dire, d'enchaîner lecture sur relecture, 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 pendant peut-être 5 ou 6 fois, les chants complets. Mais normalement, reprendre tout de suite, dans le souffle. Même si à 3h30, j'avais fini le 5e chant, bien à 4h30, j'étais de nouveau aux 2/3 du 1er chant. Enfin. Donc je continuais comme ça. Alors ça, c'est une utilisation, je crois, singulière du livre de L'Outre-Hermont. C'est donc cette méthode de drogue. S'en servir comme d'une drogue. La drogue est toujours un effet répétitif. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est entraîné. On est entraîné beaucoup plus, enfin, comme dans un phénomène de lévitation nocturne. C'est ce que j'appelle la nuit mystique, parce que c'est une expérience, alors, quand vous sortez plus le même. Vous êtes très modifié par... C'est un des auteurs qui modifie quand même le plus à la fin, sans qu'on sache pourquoi, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a.